Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Très bien, est-ce qu'on m'entend?
On t'entend bien.
On t'entend bien avec ma voix de nasale là. C'est chic chic là.
C'est l'hiver.
Je mettrai un petit effet audio. J'ai voix masculine forte.
Ouais, en vrai, de toute façon, j'ai tout le temps, je parle tout le temps du nez, mais alors là, c'est encore pire. Je pourrais chanter du Britney, genre.
N'hésite pas.
Tu peux tout faire. Tu peux tout faire de
The Bascule. Cool, très bien.
Podcast très libre. On peut faire tout un épisode où c'est juste Tristan Lepoint vous chante du Britney
oui.
pendant une heure.
Oui. Ah ouais, bah ça peut être encore plus long. Hein. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de
elle
de
a
chansons.
Des, elle a des titres. Après, tous sont pas. Je pense pas que tu fasses une heure de gros hits de
une,
Britney.
Ah si
ah, quand même, genre.
Une heure de gros hits de Britney. Carrière,
ah ouais, quoi. Si.
Que tout le monde chante dans la ouais. foule, même les gens qui connaissent pas Britney.
Au moins t'en citer 10.
Ne ça... le teste pas, Fabrice.
Ouais.
Si tu veux. Que Tristan Lompin monte sur scène pour faire un concept. Concept
oui. Ah non, non, mais je veux dire, me challenge pas. Elle a fait une heure de tube, c'est sûr.
On fait un concept, ouais. Ok. Tristan Lompin reprend Britney.
Pendant une heure.
Ouais,
pendant
je chante super mal en plus, donc c'est pas une bonne idée.
Et Fabrice arrive à la fin pour dire j'avais tort et tu avais raison.
Oui, c'est vrai.
C'est parti.
Your go.
C'est parti.
Coucou, c'est Mimi.
Coucou, c'est Fab.
Et bienvenue dans The Boys Club.
Boys Club.
Jamais synchro.
Non.
C'est le miracle.
Ça, ouais.
The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux, Fab et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Tristan Lompin.
Oui. C'est moi.
Oups.
L'enthousiasme.
Il l'a encore fait.
On est parti.
Bien tenté, bien tenté.
Tristan Lompin, je suis ravie de te recevoir. Tu étais sur ma liste d'invités depuis avant que le podcast existe.
C'est vrai?
Oui.
Le day one.
Tout à fait. Et j'ai eu la chance de te voir sur scène, car tu passes sur scène à Paris jusqu'au 29 mars, oui, puis en tournée dans toute la France. Et je me suis dit, c'est l'occasion de recevoir Tristan Lompin pour dire aux gens, il est trop cool, allez le voir sur scène et que tu nous parles un peu de ton rapport à ton genre.
Eh ben avec plaisir. Je suis là, allons-y.
Ok. Tristan, ça veut dire quoi pour toi être un homme?
Ah, être un homme, oh là là, le sujet est vaste. Être un homme, il y a plein de significations différentes. Être un homme physiquement, l'apparence physique, ça va être le sexe, mais après, je pense que c'est.
Tu regrettes un peu d'être venu ou pas?
Non, pas du tout, je regrette pas. En vrai, c'est une bonne question, c'est juste que je sais pas trop, tu vois, ce que ça veut dire, j'en sais rien,
Il n'y a pas de bonne.
Il n'y a pas de réponse, hein. J'ai l'impression. Je suis un homme parce que je me sens bien dans le corps qu'on m'a donné à ma naissance, quoi. Donc, a priori, je suis en phase avec mon physique. Enfin, pas avec tout, puisque j'ai plein de défauts qui me rendent ouf, mais.
On en parlera.
en tout cas, ça ne me pose pas de problème. Je suis bien dans ma peau. Voilà. Après, qu'est-ce qu'être un homme? Vaste question.
Après, chaque définition est personnelle.
Ouais, selon les yeux de qui, en fonction de si t'es dans la peau de Donald Trump ou dans la peau de Bilal Hassani, ça doit être très différent.
Je pense, oui, que la définition
donc,
change.
Voilà.
Et du coup, on va découvrir quand on est dans la peau de Tristan Lompin.
Voilà, bah, j'essaie de rentrer entre les deux. Okay. je serai entre Bilal Hassani et Donald Trump. Tu vois.
J'espère que t'es un peu plus d'un
plus
côté que de
Bilal,
l'autre,
hein.
Quand même.
Oui, je suis proche de Bilal, ouais.
J'allais dire, sinon
c'est la violence. Moi, je me rapproche de Donald Trump. Ok, on va arrêter le podcast maintenant.
Bah déjà, tu m'as fait la bise, mec, et tu m'as pas serré la main de façon extrêmement virile en m'écrabouillant le...
Non, mais attends, tu t'es quasiment jeté sur moi, hein, si on peut le dire.
Ok, bah alors, allons-y.
Faut pas tendre des perches, Fabrice.
C'est vrai, non, c'est trop
facile. J'avoue.
Du coup, pour comprendre ce que ça veut dire pour toi être un homme, il faut comprendre comment t'es devenu un homme. Donc, en commençant par ton enfance, t'étais quel genre de petit garçon ?
J'ai été un petit garçon très réservé.
Surprenant.
Ah ouais, je sais, c'est très surprenant, mais très réservé jusqu'à, je pense, mes 12-13 ans, où il y a eu une espèce de switch où je suis devenu assez... assez populaire entre guillemets au collège et puis après au lycée, mais à la base moi j'étais vraiment très renfermé sur moi-même, très timide, je mettais toujours mes 15 ans à manger le moindre truc à table, mes parents en pouvaient plus, non ouais, je suis une grosse surprise en fait. À la base pas du tout, très renfermé, ouais.
Et c'était quoi ton schéma familial? Qu'est-ce qui faisait que même en famille, parce qu'il y a des enfants, moi j'étais une enfant très timide, mais pas en famille. Dès que je sortais de ma famille, j'avais peur de tout le monde, mais en famille, j'étais genre chill.
Je sais pas, je pense que c'est... J'ai deux grandes sœurs, mes parents sont toujours ensemble, ils étaient ensemble quand j'étais petit. Je sais pas, j'imagine que je devais pas me sentir légitime. Enfin, je sais pas, quand on est enfant, les gens prennent beaucoup de place autour de nous et je pense que je devais pas trop savoir où était la mienne et que je devais pas trop me sentir légitime. Donc dans ce cas-là, on prend le moins de place possible et on observe. J'ai longtemps observé, même aujourd'hui, hein, quand je suis dans un groupe de nouveaux gens et que je connais pas trop et tout, j'ai tendance vraiment à observer plutôt que tout de suite être un peu dans l'agressivité. Donc j'ai toujours ce petit garçon un peu en moi. Hein,
ouais. T'as beaucoup d'écart avec tes grandes sœurs ?
On a 7 et 4 ans.
Ok.
Donc ça va, hein. Plus jeune, c'est plus
jeune, handicapant, c'est beaucoup.
Entre guillemets, mais ça va. On s'est toujours plutôt bien entendu, hein. Mais ouais,
Et elles prenaient de la place, tes grandes sœurs, c'est pour ça peut-être.
Elles ont pris de la place. Et puis après, moi, je pense que j'ai toujours été un petit garçon plus dans mes pensées ou plus dans une démarche un peu, je pense, où je me posais plus de questions que la majorité des enfants, peut-être. Et qu'il y a un moment donné où on se dit, peut-être que je correspond pas tout à fait à, tu vois, à l'image classique de l'enfant type, en fait, qui joue, moi, je pense que je me posais déjà beaucoup de questions. Et peut-être que, intérieurement, je me demandais, si je correspondais tout à fait au monde dans lequel je vivais, quoi. On se pose beaucoup de questions quand on est enfant.
Pas tous les enfants, je pense.
Enfin, moi, je m'en suis posé beaucoup.
Est-ce que tu avais un monde imaginaire ? Est-ce que tu avais des passions dans lesquelles tu te réfugiais ?
Ado, j'ai beaucoup dansé. Petit, je faisais beaucoup de dessins. Et après, ouais, je jouais beaucoup avec mes peluches. J'ai toujours eu des mondes un peu imaginaires. Avec mes sœurs, on avait tous un monde un peu imaginaire et on jouait tous un personnage. On avait tous un personnage. Moi, je me souviens, j'étais dieu des sables. Donc genre, je pouvais activer des tempêtes de sable.
C'est la base en même temps. Hein.
J'avais 11 ans déjà. Je me souviens, on partait souvent en vacances avec mes parents. Ils nous emmenaient faire des voyages hyper beaux et je me souviens d'une fois, on était au Maroc et puis j'étais dans la chambre et puis en fait, je jouais à être une espèce de grosse célébrité dans la chambre d'hôtel avec mes sœurs et je faisais des parodies de chansons. J'avais fait une parodie de Britney de Baby One More Time justement.
Déjà à l'époque.
Et j'imaginais, je faisais les les cris du public et tout derrière et tout. Tu vois, j'étais en mode. Donc ouais, j'ai des mondes imaginaires. Moi, j'en ai eu plusieurs.
Et du coup, c'est marrant parce que t'es extrêmement timide et réservé, mais tes mondes imaginaires, ils sont déjà très... Enfin, tu vois, t'es un dieu, t'es Britney, c'est très drama, quoi.
C'est très drama, ouais, parce que je pense que je me suis toujours dit, il se passera un truc, en fait, tu sais. Ça, c'est les moments où tu te dis, bon, là, je sais pas, c'est pas trop le moment, mais je sais pas, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ressentent ça et que ça arrive d'une manière ou d'une autre, je veux dire dans la vie personnelle ou la vie professionnelle, enfin voilà, chacun s'épanouit comme il peut et comme il le veut. Et moi j'ai toujours senti bon là c'est pas le moment mais il va se passer un truc quoi. En tout cas je sentais que j'avais cette force là qui n'était pas exploitable à ce moment-là mais qui finalement le serait peut-être plus tard.
Et tu disais qu'au collège t'étais devenu populaire à 12-13 ans, c'est ça ?
Ouais.
Il
s'est passé que, en fait, je me souviens, je suis parti en camp UCPA.
On adore l'UCPA chez Mademoiselle.
Ah, c'est vrai. Ça s'est pas très bien passé. Ah. Mais parce qu'en fait, c'était la première fois que je faisais une espèce de colo et tout.
Ah oui.
Que moi, je pense que j'étais pas du tout un enfant. Vu que j'étais pas habitué, c'est pas un truc auquel. J'aspirais forcément, mes parents m'avaient mis là avec une de mes cousines. Et en fait, moi, j'étais encore dans cette période où j'étais très timide, etc. Et en fait, le fait d'être H24 avec des gens que je ne connaissais pas, que je découvrais comme ça du jour au lendemain, dans des conditions, je me souviens, on faisait du canoë, on dormait dans des tentes, enfin vraiment le truc, moi, déjà petit, j'étais pas du tout branché là-dessus. Et je me souviens qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, enfin, je me le suis pas dit, c'est arrivé. J'ai trouvé les ressources en fait de m'imposer au groupe, tu vois, c'est à dire que en fait quand t'es timide c'est très compliqué de te dire à un moment donné, tu sais, de t'avancer, de dire en fait je suis là et je suis quelqu'un de cool, parce qu'en vrai quand t'es timide en fait t'es rarement quelqu'un de cool, enfin tu vois, à 13 ans les gens bon. Et en fait, je sais pas, d'un coup, il y a eu un espèce de vraiment de switch, je pense, dans ma tête, où d'un coup, je me suis mis à envisager les gens autrement. C'est-à-dire que je pense que j'ai créé une espèce de, bah, de système de défense avec l'humour, en fait, où du coup, je commençais à taquiner un peu les gens et en fait, à renverser un peu la vapeur. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. D'un coup, j'ai été un peu populaire parce que j'étais un peu drôle, en fait. Et que je me cachais plus, je me cachais plus, quoi. Je pense aussi.
Est-ce que tu penses avec le recul que tes parents t'ont mis dans cette colo pour te mettre un petit coup de pied au cul?
Ah, je pense pas du tout.
Ok.
Non.
Non, mais comme tu vois, t'as un enfant timide, tu te dis tiens, peut-être c'est l'occasion de lui faire.
Ouais. Alors, j'avoue, je l'aurais jamais demandé. Peut-être, ouais, mais pas autant, je pense.
Ok.
Pas autant, parce que il y a vraiment eu un truc. Du coup, que j'ai vachement gardé après dans ma famille où j'étais vachement plus réservé du coup parce que le switch paraissait un peu improbable comme ça. Mais ouais, pas autant. J'ai vraiment eu une transformation. Ouais.
Mais il y a pas ce truc aussi où quand tu changes de groupe, tu sais, t'as pas tes casseroles en fait avec tes bandes de potes, etc.
Ouais, c'est vrai.
Et tu peux te réinventer un personnage, quoi.
Ouais, mais en même temps, les premiers, je pense que c'est arrivé vers la fin du séjour. Tu vois,
okay,
donc il y avait dû avoir déjà peut-être une semaine, quoi, où clairement je devais pas être le mec le plus populaire du truc. Et puis finalement, en fait, ça m'a servi pour après. C'est-à-dire que finalement, bon, les derniers jours se sont très bien passés, j'étais pote avec tout le monde et tout, et puis après, bon, on rentre et puis. Voilà.
New Tristan.
Ouais, il y a eu vraiment un
New
truc.
Year, comme... New Tristan.
Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu décides de redéfinir tes rapports avec les autres, est-ce que c'est différent selon les filles et les garçons?
Inconsciemment, ouais, je pense, parce que j'ai toujours été plus proche des filles. De manière générale, après j'ai toujours eu des potes même hétéros, enfin je veux dire la majorité de mes potes proches sont plus hétéros, mais ouais, j'ai toujours été plus proche des filles. Franchement, je saurais pas trop dire pourquoi, parce que mais peut-être justement parce que j'avais une maturité peut-être plus exacerbée et plus développée plus tôt que les garçons, quoi, et que du coup j'étais plus ouvert à certains questionnements que d'autres garçons, quoi. Les garçons souvent
teubés.
De quoi?
Les garçons sont teubés.
Ouais, enfin
à l'adolescence.
Ouais, il y a un côté plus primaire, quoi. pas tous évidemment, mais je veux dire il y en a, enfin voilà. Donc qui sont un peu bruts, et puis chez les garçons il y a je pense que ce qui existe aussi chez les filles, mais du coup quand t'es un garçon par rapport aux filles c'est vachement différent, c'est qu'il y a toujours une espèce de compétition, donc les gens se comparent, les filles se comparent dans leur féminité, dans leur succès par rapport aux autres, leur popularité, les garçons aussi se comparent beaucoup, mais du coup quand t'es un garçon, les filles en fait tu deviens une espèce de faire valoir parce qu'en fait elles se sentent proches de toi, et en même temps il n'y a pas de compétition parce qu'on joue pas dans la même cour entre guillemets, donc c'était beaucoup plus agréable, ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais déjà que t'aimes les garçons?
Moi, je pense que ouais, je l'ai toujours. Ça a toujours été présent. Ouais. Après, dire qu'il y a un moment donné où ça s'est manifesté ou pas, non, je dirais pas. Mais
parce que je me dis, les colonies, c'est souvent les colonies à 12-13 ans, c'est les premiers petits copains, première petite copine. Tu t'envoies des lettres après et tout. Donc c'est souvent une période de première romance, de premières expériences romantiques, pas sexuelles.
Alors je dirais pas qu'à ce moment-là j'avais tu vois cette perspective là, mais en tout cas c'est certain que je devais me poser des questions. Oui j'ai toujours senti que, enfin voilà, et je pense que c'est pour ça aussi que même petit je me sentais pas forcément de rentrer dans voilà, parce que je pense que j'avais une sensibilité un peu différente, quoi. Donc ouais, ça a toujours été présent, je pense.
Comment ça s'est passé quand tes parents ont fini par découvrir le New Tristan, une fois que t'as arrêté de faire le réservé pour les ménager un peu?
Mais ça a été progressif, en fait. Eux ont pas eu le... Ils ont pas eu cet effet très, très cash, quoi. C'est plus ma cousine, je me souviens, pour le coup, qui me connaissait bien, qui m'a vu du jour au lendemain un peu switcher. Mes parents, je pense que ça a été plutôt progressif. Donc, ils ont rien dit de spécial parce que je pense que je l'ai caché un peu au début. Et que au fur et à mesure, ouais, c'est venu petit à petit, qu'ils ont vu que je commençais, je pense, à être plus épanoui, à parler plus peut-être, et puis après je leur ai présenté mon premier amoureux, enfin bon, donc les choses, ouais, il y a pas eu de bascule pour eux, je pense, net en tout cas.
Mais pour revenir à cette colo, t'as un moment, tu as la sensation d'avoir eu un déclic, un moment d'un truc qui t'a fait dire ou. Je sais pas, j'en ai marre en fait d'être comme ça, il faut que je change. Il s'est passé un événement ou un truc comme ça?
Non.
Non, t'as plus.
Pas tellement en plus, c'est juste que. C'est pas. Je sais pas, je pense qu'il y avait un trop-plein à un moment donné de se sentir toujours. Enfin, moi j'avais toujours le sentiment d'être pas bien en fait. D'être là et en même temps de compter les minutes qui me séparaient au moment où j'allais repartir d'ici, d'être dans l'appréhension de tout. Je pense qu'il y a eu un trop-plein. Et puis un jour, je me souviens, j'avais acheté une tablette de Lindt au chocolat avec des noisettes dedans. Et en fait, je crois que j'ai bouffé la tablette entière. Et je pense que je sais pas, j'ai eu un
sugar rush.
Ouais, mais je pense que j'ai eu un sugar rush vraiment. Et que d'un coup, j'ai un peu switché pendant une heure, quoi. Et que après, le truc est revenu. Je me souviens, ma cousine me disait, ah, mais attends, on va te redonner du Lindt aux noisettes, machin et tout. Et c'était un peu la blague pendant les jours d'après et tout. Et en fait, ouais, je me demande s'il y a pas eu un combo. Bon, voilà, peut-être que j'ai été un peu excité à un moment donné. Et puis, par le sucre et que j'avais un trop plein et que d'un coup, j'ai un peu lâché prise, quoi. Mais tu sais, je pense que ça, le déclic peut prendre un quart de seconde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu testes un truc, que tu vois que les gens te regardent différemment et que, en fait, tu te rends compte que ce truc-là, en fait, t'appartenait depuis très longtemps, en fait. Tu vois, ce regard qu'on a sur les gens, tu vois, quand tu dis quelqu'un qu'il est drôle, c'est parce qu'il a une perspective sur les choses qui rigolotent, en fait, qui te parlent. Et d'un coup, quand tu vois que ça parle aux gens, en fait, bah, tu rebondis tout de suite dessus, en fait. Donc, j'ai même pas eu à retourner dans.
Ah bah, remanger du Lindt.
Voilà. Du coup, je mange du Lindt tous les matins pour être drôle.
Avant de monter sur scène.
La pilule magique aux noisettes.
Exactement, c'est ça. Ouais.
Le mec est sponsor, faut le savoir.
Même pas en plus.
On aurait dû demander à Lindt si on avait su. T'as mentionné que t'as fini par amener ton premier amoureux à la maison.
Ouais.
C'était qui ton premier amoureux ? Ça s'est passé comment ?
Ça c'est.
Comment il s'appelait ? C'était quoi son prénom déjà ?
Il s'appelle Bruno. Il s'appelle Bruno.
On l'embrasse.
Et on l'envoie carrément.
Bisous Bruno.
Et ça s'est bien passé. Au début, il venait sans que mes parents soient au courant ni rien. Et puis à un moment donné, je pense que ça a été un peu cramé. Voilà. Évidemment, au début, c'était pas évident parce que je pense que c'est jamais ce que les parents souhaitent pour leur enfant. En dehors du fait que ça leur plaît pas que deux garçons soient ensemble ou deux filles soient ensemble, je pense que le fait est que la société aujourd'hui est quand même pas hyper à l'aise avec. Toutes les sexualités et que on ne souhaite jamais que ton enfant vive une vie moins facile que celle des autres et que forcément aujourd'hui c'est plus facile d'être hétéro que d'être homosexuel. Enfin bon, on va pas se cacher là-dessus. Mais finalement ça s'est bien passé. Ils ont ouais, je pense que ils se sont toujours posé des questions à ce moment-là de savoir pourquoi c'était quand même il y a genre 16 ans quoi. Donc en fait il y a 16 ans on se posait encore les questions de savoir qu'est-ce que j'ai fait ou
oui, qu'est-ce qui s'est passé que quoi.
Aujourd'hui on se pose plus trop, enfin je crois pas, moi en tout cas. À cette époque-là, ouais, je pense qu'il y a eu ces questions-là, mais ça s'est bien passé. Ouais.
Au niveau de tes sœurs aussi, ça s'est bien passé.
Ouais. Après, vous savez, il y a toujours des propos un peu chelous. Et j'en ai même pas en tête d'ailleurs. Hein. Mais il y a toujours des trucs où je me suis dit, je sais pas, ça me paraît bizarre de. Tu vois, des trucs, en fait, on te pose des questions.
Une forme de curiosité.
Ouais, de la curiosité un peu mal placée. Tu vois, c'était pas mes sœurs, mais je me souviens, quelqu'un qui m'avait dit, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, tu vois, enfin, genre, t'es là-bas, en fait, je te le dis, mais on s'en fout, enfin. Ouais, voilà. Bon, rien de très original, hein, malheureusement.
Bah en même temps, c'est une expérience que plein de gens ne connaissent pas, puisque plein de gens sont hétéros et du coup n'ont pas vécu toutes ces questions qui peuvent paraître évidentes en fait quand elles ont fait partie de ta vie. Mais c'est toujours bien d'informer, je pense, les gens sur toutes les petites questions en fait qui sont pas méchantes dans leur intention, mais qui sont un peu chiantes quand même.
Ah bah bien sûr, mais ça marche pour tout. Hein. Ça marche même dans le rapport au corps. Moi, je vois des. Enfin, tu vois, bah, quand tu dis pas à quelqu'un qui est en surpoids, tu fais pas des blagues. Enfin, tu vois, les gens, à partir du moment où les gens sont différents, tu sais, il y a toujours un truc où rentre pas dans la norme. On pose toujours des questions qui sont un peu improbables. On fait toujours des blagues un peu cheloues, tu sais, parce que comme ça nous appartient pas, d'un coup, il y a une espèce de curiosité un peu mal placée, quoi. Je pense que c'est la même chose pour la sexualité, quoi. Les gens s'intéressent de manière un peu bizarre aux choses, quoi.
Ils sont curieux. Est-ce que t'as su, à quel âge t'as su que tu voulais faire de la scène ?
Bah moi je voulais pas faire de la scène au début, je voulais être réalisateur.
Ah.
Ouais,
je voulais dire bibliothécaire ou comptable. Non.
Non, alors pas du tout, mais je voulais faire des films, moi je voulais raconter des histoires. Donc j'ai fait une école de cinéma, j'ai réalisé deux courts-métrages. Et après, je suis parti un an aux États-Unis à New York. J'ai eu un peu des cours là-bas, j'ai bossé là-bas. Et j'ai été un peu costumier là-bas. Et en fait, on m'a rappelé pour faire un long métrage avec Tahar Rahim à Paris, pour être costumier justement dessus. Et puis du coup, bah, j'ai enchaîné sur ce film-là.
Fab, il me juge. Parce que je suis amoureuse de Tahar Rahim.
Ouais, je comprends. C'est la vie. Voilà. Il est très mignon et puis il est gentil. Donc.
Ta réaction était chelou.
En plus, il est gentil.
Et puis après, j'ai enchaîné sur un autre film avec Béatrice Dalle de Gaël Morel. Et en fait, du coup, j'ai enchaîné un peu les trucs comme ça. J'ai fait un court-métrage avec Bérangère Krief avant qu'elle commence Bref et tout. Et puis, moi, j'écrivais à ce moment-là des rubriques sur Internet pour un blog de potes, un peu dans l'esprit du spectacle, justement. Et elle m'a dit, mais tu devrais trop monter sur scène, je pense, avec l'énergie que je dégageais, etc. Et les textes que j'avais écrits. Puis l'idée a un peu mûri comme ça. Et puis, quelques mois plus tard, je me suis dit, ah, je vais prendre des cours le soir, tu vois, 3 heures par semaine à l'école du One Man Show pour me donner une espèce de, tu vois, de rythme de travail et tout. Et puis, en fait, au bout de quelques mois, j'ai rencontré mon metteur en scène par hasard qui faisait un remplacement une semaine, qui m'a vu sur scène et qui m'a dit, mais si tu cherches un metteur en scène, moi, ça m'intéresse. Et puis voilà. Mais c'était pas du tout prévu.
C'est quoi ton rapport à la scène du coup? Parce qu'il y a un côté très qui peut être très intimidant pour beaucoup de gens de monter sur scène et de parler dans l'espoir de faire rire les gens. Et si jamais ils rient pas, quoi, parler devant des gens, c'est compliqué.
Ah bah ouais, bah de toute façon rire, il y a des gens qui rient. Enfin, tu vois, il y a des gens qui rient intérieurement et qui rient pas en vrai. En fait, cette peur de pas faire rire les gens. Il y a des soirs où les gens rient plus et des soirs où les gens rient moins. Ça veut pas dire que ça leur plaît moins. C'est juste que chacun a sa manière d'exprimer son rire et que malheureusement il y a des gens qui sont assez silencieux. Après, c'est la scène, c'est clairement un exutoire. Enfin, je veux dire, moi, c'est ce que m'avait dit ma psy une fois. Parce que moi, je passe mon temps à m'interroger sur le regard que les autres portent sur moi. Elle me dit, vous faites quand même un métier où vous choisissez qu'il y ait 350 personnes tous les soirs qui soient devant vous en train de vous juger, quoi. Mais c'est que moi, je choisis le moment, tu vois. C'est-à-dire que je me dis, ok, là, j'y suis. Pendant 1h15, en fait, c'est ça.
Oui, c'est ça, t'es en contrôle, quoi. Parce que, ouais. Et puis les gens, ils viennent te voir, toi, ils se retrouvent pas en face de toi par hasard.
Non. Mais au moins, je dis, je déballe mon truc, je déballe, voilà. Ouais. C'est un exutoire, c'est clair.
J'ai envie de creuser un peu le sujet de ta psy, parce qu'on n'a pas beaucoup...
Je m'en doutais.
Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup d'invités qui ont déjà été en thérapie, ou en tout cas qui le confient au micro. Ouais. On en a eu plusieurs qui disaient qu'ils avaient peur d'y aller pour diverses raisons. Du coup, ça fait combien de temps que tu vois une psy ?
Je la vois plus, là. Mais je l'ai vue pendant, je sais pas, 8 ans 8-9 ans. Je la vois plus depuis un an parce qu'on a décidé que on était arrivé au bout du chemin.
Waouh, bravo.
Donc bravo, je sais pas, moi, ça faisait un moment que j'y pensais et puis un jour, enfin voilà, elle m'a dit qu'on était au bout et puis je l'ai vue ouais pendant 8-9 ans. Et la question, excuse-moi,
c'était depuis combien de temps? Tu vois,
je l'ai vue 8-9 ans et puis maintenant je la vois plus. Mais si je l'ai vue genre il y a 6 mois et ça faisait un an que je l'avais pas vue justement. Juste parce que, tu vois, pour checker, genre, tu vois... Et puis en
reprendre
fait,
un café, voir si ça
ouais,
va.
Ouais, pour la voir un peu. Et puis, en fait, bah voilà, ça va.
Qu'est-ce qui t'a incité à aller chez la psy, d'abord?
Qu'est-ce qui m'a incité à aller chez la psy? Je pense que j'étais un petit garçon assez angoissé, quand même, déjà, quand j'étais petit et tout. Que l'adolescence est pas forcément un passage non plus évident pour qui que ce soit. Avec tous les questionnements relatifs même à la sexualité, etc. Au regard des autres. Voilà, je pense que j'étais quelqu'un d'assez anxieux. Je le suis toujours, hein. Mais d'assez anxieux. Et du coup, on a tous, tu sais, des trucs à régler de notre enfance, avec nos parents, notre famille. Donc, en fait, il y a eu un donné où je me suis dit, j'ai envie d'avancer, tu vois. Tu sais, tu sens quand à un moment donné t'es un peu en train de patiner quoi et je me suis dit il faut avancer et en vrai heureusement parce que j'ai gagné tellement de temps en fait.
Ouais, tu dis on a tous des trucs à régler mais on les règle pas tous quoi.
Non, on les règle pas tous.
Et dans le Boys Club, en fait Mimi te pose la question, je sais pas si tu le sais, mais parce qu'en fait il y a très très peu de mecs d'une manière générale qui vont vers ce travail-là sur eux-mêmes, en fait, et qui vont vers ce travail sur leurs propres émotions. Ouais. C'est un truc qui, d'une manière générale, dans la masculinité, on n'apprend pas aux petits garçons à gérer leurs émotions.
Non, c'est vrai. Et en même temps, Et en même temps, ça fait pas des garçons très épanouis, j'ai l'impression. Enfin, tu vois.
Qu'en dis-tu, Mimi?
Bah, plutôt peu, oui, parce qu'ils savent pas comment confronter leurs émotions et comment les gérer. Donc, forcément, tu peux pas être très épanoui si tu sais pas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans tes tripes, quoi.
Ouais, et que tu vois, même moi je le vois dans l'humour, tu vois, la majorité des mecs passent plus de temps à rire des autres qu'à rire d'eux-mêmes, tu vois. Alors qu'en fait, ce qui est drôle, justement, c'est de dire qui tu es toi, en fait. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que toi, c'est risible, rire de, tu vois, d'une communauté ou d'une autre, ou rire d'une meuf qui fait ci, qui fait ça, tout le monde le fait, en fait, enfin, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est de dire, en fait, toi, c'est quoi, en fait, ton truc, tu vois? Genre, qu'est-ce qui fait que tu montes sur scène? En fait, c'est juste pour nous parler de, tu vois, de, enfin, de, je viens de là, et du coup, bah, machin, avec ton micro, ça va être crevé, quoi. Et des gens, tu te dis, mais c'est terrible.
Qu'est-ce qui fait, en fait, quand tu sens que tu patines, qu'est-ce qui, alors c'est une question qui va être un peu compliquée à formuler, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, dans ta tête, c'est normal, enfin, c'est envisageable d'aller voir une psy? Est-ce que tu connais des mecs qui ont été, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de mecs pour qui c'est même pas sur le radar, en fait, quand ils se sentent pas bien, parce qu'ils savent même pas qu'un mec peut aller chez un psy, pour caricaturer, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc dans ta vie qui fait que pour toi, ça te paraissait une option tout à fait valable?
Bah, j'avais une copine à ce moment-là qui y allait. Et puis je crois que j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit voilà, après mes parents sont des gens assez ouverts d'esprit, donc ça a pas posé de problème, et puis je pense que c'était le moment justement où tous ces trucs de sexualité se mettaient en place de manière plus ouverte et plus établie avec eux, donc je pense que justement c'était plutôt une bonne chose, je pense, pour mes parents. Enfin, ils l'ont pas vu d'un mauvais œil, en tout cas. Et puis voilà, moi, je me suis, enfin, je pense que j'avais passé tellement de temps à ruminer plein de trucs et à, tu vois, être dans la timidité, dans être enfermé, etc., que je me suis dit, mais en fait, il y avait un truc qui avait commencé à se débloquer. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve le moyen de lâcher complètement prise, quoi. Parce que sinon, ça va être hyper handicapant pour le reste de ma vie. C'est vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très handicapés par tout un tas de choses qu'ils ne règlent pas.
Et du coup, si t'as arrêté de voir ta psy, ça veut dire que vous avez débloqué ce qui pouvait l'être ?
Ouais. Enfin, en tout cas, je pense que je suis toujours rempli de plein d'angoisses, etc., mais que j'arrive à les gérer, en tout cas. Enfin, tu vois, j'arrive à vivre avec au quotidien et que j'arrive à vivre avec moi-même sans trop de... sans que ce soit trop compliqué, donc ouais, ça va.
Est-ce que parmi ces angoisses, il y en avait qui étaient liées à ton genre? Est-ce qu'il y en avait qui étaient liées à peut-être ce qu'on attend d'un homme dans la société ou ce que des possibles partenaires peuvent attendre d'un homme auquel tu corresponds?
Pas tellement. Étrangement, je pense que j'ai été assez libre là-dessus. Assez tôt, parce que déjà mon père est pas du tout un homme qui rentre dans des clichés du père... qui m'aurait dit qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas, tu vois, mon père c'est pas bricolé, mon père s'intéresse pas du tout aux voitures, mon père regarde pas le foot, enfin, mon père et mes parents m'emmenaient voir quand j'étais petit, ils m'emmenaient voir à partir de l'adolescence, j'allais voir avec eux des films iraniens sur la condition des femmes, tu vois, je me souviens, on est allé voir, et c'est eux qui m'ont emmené voir Virgin Suicide de Sofia Coppola au cinéma, c'est sorti je sais pas en quelle année, mais j'étais ado, quoi, je devais avoir 13 ou 14 ans, quoi, donc mes parents toujours étaient... Alors voilà, ils font certainement partie d'une espèce de... Ils sont d'intellectuels parisiens, un peu bourgeois, mais bon, bah tant mieux finalement. Mais du coup, ils m'ont toujours ouvert à ce truc un peu, oui, de l'émotion et de pouvoir les exprimer, en tout cas à travers le cinéma. C'est pour ça que j'ai voulu en faire d'ailleurs. C'est pour parce que je trouve que c'est un très bon vecteur pour les gens de pouvoir se connecter au vécu et à l'histoire, aux émotions d'autres personnes. En fait, je trouve qu'on est très auto-centré. Et de voir, tu vois, le cinéma, de voir, de vivre d'autres histoires, ça permet aussi de relativiser sur les nôtres, quoi. C'est pour ça que je suis toujours hyper agacé par les gens qui n'ouvrent au cinéma que pour se divertir. Que je trouve que il y a tellement de choses à voir et tellement de enfin tu vois de cultures différentes et c'est tellement un moyen qui te permet de voyager, de voir d'autres choses que je trouve ça hyper agaçant.
Mais pourtant t'as décidé de faire de ton métier un vrai divertissement. Alors même si tu portes des messages sur scène,
ouais.
tu ramènes quand même les gens pour les faire rire, donc pour les divertir.
Ouais, bien sûr. Ouais bien sûr. Mais je trouve qu'il y a plein de films de divertissement, de comédie que je trouve qui passent des messages très importants. Dernièrement, tu vois, j'ai vu Les Invisibles. J'ai trouvé ça hyper cool parce que. Et j'ai aucun problème contre genre les divertissements purs, genre moi je suis hyper fan de Le Père Noël est une ordure qui n'aborde aucun sujet particulièrement houleux ni rien a priori. Je suis très friand, mais je trouve ça toujours hyper intéressant de pouvoir faire rire les gens en les faisant un tout petit peu réfléchir, quoi, tu vois, leur amener un peu d'émotion et voilà. Et le spectacle fait rire évidemment, et en même temps il parle d'un sujet qui est pas évident, de la rupture amoureuse, de la société dans laquelle on vit qui nous demande de cocher beaucoup de cases, des attentes que les gens ont de nous à partir de la trentaine. Donc c'est drôle, et en même temps je pense que quand les gens sortent du spectacle, ils savent ce qu'ils sont allés voir, tu vois. Je trouve ça important, en fait. Moi, que ça soit prise de tête, j'ai pas envie, forcément. J'ai juste envie qu'en sortant, les gens se disent, genre, c'est cool. Voilà. Et je crois que ça marche pour l'instant.
Ça marche bien. Et en plus de ton spectacle, enfin, avant ton spectacle, tu fais aussi des vidéos sur Internet. Moi,
ouais.
Je t'ai connu via tes vidéos Facebook,
ouais,
qui popaient sans cesse dans mon feed. J'étais là, ok, c'est qui? D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que vraiment, il est partout et c'est très cool ce que tu fais, donc bravo. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé comme ça, qu'un jour t'as pris tes écouteurs d'iPhone et une caméra et que tu t'es dit, allez, on va faire des personnages sur Internet?
Parce que je voulais faire la promo du spectacle à la base. Et que pour ramener des gens en fait dans la salle. Au début, j'avais commencé à les faire sur YouTube, ça marchait pas. Enfin, et puis en fait, ça prend du temps avant de trouver un concept cool. Et puis un jour, je sais pas, en fait, j'ai posé mon téléphone, je me suis mis à faire du sport et à parler d'un ex avec lequel j'aurais recouché, sans rien avoir écrit ni rien. La vidéo a hyper bien marché. Je sais pas. Dans la soirée, on avait dû faire genre 40 000 vues, ce qui était beaucoup. Enfin, parce que j'étais suivi par personne. Et puis après, je sais pas, en fait, les gens ont commencé à m'en demander d'autres. J'ai commencé à parler de sujets un peu du quotidien. Et puis un jour, j'ai vu sur Internet que la Manif pour tous revenait. Et c'était déjà, ça faisait déjà 2 ans hein, que c'était fini, que même le mariage pour tous était passé, en fait.
Oui.
Et je me suis dit, au début, je me suis dit, en fait, je vais faire une vidéo, mais ça va pas marcher. Parce que je me suis dit, mais ça fait 2 ans et demi que c'est fini, la Manif pour tous, ils font un comeback, mais tout le monde s'en fout. Et vraiment, je me suis dit, je vais faire la vidéo.
C'est une pop star déchue.
Ouais, là, mais ouais, un peu, c'est un comeback pourri, quoi. Et je me suis dit, je vais faire la vidéo, et franchement, ça va pas marcher. Et en fait, ça a grave marché. Je sais pas très bien pourquoi, enfin, je pense que c'est même pas, je pense que c'est l'angle avec lequel j'ai abordé le sujet qui a fonctionné. Et puis après, ça en est suivi que ça a hyper bien marché, le spectacle a très bien marché, et que voilà. Mais ouais, enfin tu vois, il y a plein de gens en fait qui sont dans l'ombre entre guillemets aujourd'hui, qui font des spectacles sûrement hyper chouettes, mais qui n'ont pas les moyens de se faire connaître. Moi, c'est un moyen que j'ai eu et qui est encore plus compliqué aujourd'hui, parce que avec Facebook qui a changé et tout pour faire des vues.
On sait.
On est au courant, t'inquiète.
Ouais, y aller, ouais.
Facebook, c'est compliqué.
Ouais, c'est très compliqué.
On peut aller sur Instagram et essayer de faire des stories, ouais, rigolotes.
Exactement.
Les mêmes. Comment t'as vécu du coup la période débat, mariage pour tous, manif pour tous, full force? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'es... Je me demande, t'étais plus à New York à ce moment-là? T'étais revenu?
Non, j'étais plus à New York, j'étais revenu. Comment je l'ai vécu? C'est très violent. Hein. C'est très violent parce que... déjà parce que j'étais quand même plus jeune... qu'on a toujours l'impression du coup que c'est un peu une attaque contre nous, quoi, forcément, et que on entend, et que voilà, et que le fait est que les médias relaient des propos de gens qui sont très très extrême, quoi. Enfin, puis des gens qui font partie d'une minorité ultra violente et que du coup on entend des choses et on, enfin on, d'un coup on a l'impression d'être les parias de enfin on a entendu des trucs terribles quand même pendant cette période là ouais c'est très violent, il faut prendre du recul là-dessus sur le moment T, c'est très compliqué même.
Est-ce que t'es du genre à aller militer? Est-ce que t'es descendu dans la rue faire des manifs ou est-ce que t'es plutôt en retrait par rapport à tout ça?
Non, j'étais à aller manifester pour le mariage pour tous. Évidemment, je me souviens, j'étais avec mon papa d'ailleurs, qui était venu avec moi. Et non, évidemment, je l'ai fait. Moi, je suis le premier à.
Ce serait pas une honte si tu l'avais pas fait. Hein. Il y a deux gens.
Non. Il y a plein de gens qui l'ont pas fait. Et voilà, mais. Mais non, je trouvais ça important. Il faut se battre un peu.
Tout à fait. Je bois de l'eau, genre.
Je t'en prie. Ça, on peut faire un truc à ASMR, tu sais, genre.
Ça
marche bien.
C'était cadeau. Mets un com si tu veux une chaîne ASMR de Mimi qui boit de l'eau. Dans sa gourde nulle. En tout début d'épisode, tu mentionnais tes complexes, enfin les choses que t'aimes moins, on va dire, dans ton corps. Et c'est quelque chose que t'évoques aussi dans ton spectacle avec beaucoup d'humour.
Ouais.
Donc je me suis dit, cool, on va en parler. C'est quoi ton rapport à ton corps?
Mon rapport à mon corps, j'ai un rapport assez, assez serein en fait. Hein. J'ai des, tu vois, je me trouve pas parfait ni rien. Je me trouve plein de petits défauts. Après... je me trouve pas moche non plus, enfin tu vois, j'ai un rapport assez assez serein, c'est-à-dire que je forcément c'est enfin le rapport au corps, c'est toujours compliqué entre les images qu'on voit dans les magazines, les sur Instagram et tout, faut avoir un peu de second degré quoi.
Il faut virer des gens de ton feed Instagram.
Ah mais je le fais. Franchement, ouais. Déjà, je suis pas beaucoup de monde et je suis pas les mecs qui se mettent en scène dans des slips de bain à la plage avec des six packs et le regard, tu sais, un peu ténébreux. Alors qu'en fait, ils ont juste l'air de teubés, quoi. Mais non, je m'épargne ça. Hein, c'est terrible. Puis en plus, c'est pas du tout des mecs qui m'excitent, quoi. Je trouve ça. Moi, tu mettrais avec moi un mec qui passe son temps à se prendre en photo sur la plage, très peu pour moi.
Mais est-ce que, en grandissant, ton rapport au corps était plus complexe, peut-être ? Moins serein ?
Ouais, évidemment. Et puis, en plus, le corps des garçons comme le corps des filles change. Moi, j'ai commencé à avoir des poils. Et puis, tu sais, c'est toujours comme pour les filles, quoi. C'est quand les seins commencent à pousser, pas forcément comme il faudrait ou machin. T'as les poils qui poussent pas forcément au bon endroit au bon moment. T'as la barbe. Enfin, tu vois, tu commences à avoir un vieux duvet de moustache dégueu. moi, je me souviens de ma grand-mère qui me dit, ah, on va t'acheter un rasoir. Et t'es là, bah non, en fait, j'ai pas envie qu'on la. Enfin, tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise que j'en ai une, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'en avoir. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, c'est bâtard, parce que j'ai pas de moustache, mais en fait, j'ai un espèce de duvet chum. Tu vois. Donc, évidemment, ça a été compliqué en grandissant, mais comme enfin tous les ados, je crois que c'est compliqué. Hein.
Ouais, mais les garçons en parlent beaucoup moins. C'est-à-dire que t'as beaucoup de sensibilisation autour des complexes féminins et des modèles de beauté féminine qui sont des femmes qui n'existent pas, qui sont ultra retouchées et tout. Ce qui est de plus en plus le cas chez les modèles de beauté masculin, mais c'est moins. En fait, les mecs expriment moins leurs complexes.
Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils en ont moins.
C'était ça le grand secret.
Non. Les garçons parlent beaucoup moins ouvertement de plein de choses, mais ça veut pas dire qu'ils pensent pas la même chose que les filles.
Est-ce que t'en parlais, toi, avec les autres garçons quand t'étais ado?
Pas tellement, parce que je pense qu'en plus, j'avais aussi un peu un truc d'ego et de. Donc, non, pas tellement, mais c'est un truc qui est venu quand même après, ouais. Je pense qu'on en parle plus quand on commence à s'assumer, en fait. Enfin, quand tu commences à tourner un peu la page de tes névroses et de. Bah, tu te dis, bon, en fait, on est comme ça, en fait. Bon, bah, tant pis, en fait. Enfin, tu vois, bon, c'est pas grave. C'est. Voilà. On peut pas lutter contre certains trucs, tu vois.
Et du coup, ça se passait comment quand... En fait, c'est quoi la réception des mecs? Un mec qui parle de ses complexes après avoir dépassé ses névroses?
Moi, je l'ai fait avec des potes. On s'installe pas non plus autour d'une table pour dire attention, on va mettre ça à plat. Hein. Mais c'est juste qu'il y a des moments où voilà, le sujet vient sur la table où tu dis ah. Enfin, je sais même pas si ça vient comme ça sur la table. C'est juste que, à un moment donné où tu parles, je sais pas, d'un rencard que t'as eu, et puis tu te dis à un moment donné, ah, et puis, on s'est commencé à se mettre à poil, et puis, je me suis dit, ah, mais ça se trouve, il va trouver que je suis trop poilu, ou que, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on parle pas ouvertement du... Enfin, moi,
oui,
je sais pas comme ça que c'est arrivé.
Moi, je me suis pas dit, ouais,
j'ai pas fait un listing des trucs que j'aimais pas chez moi et disant, attention, alors attends, là, on va parler de ça et tout, tu vois. C'est juste qu'en fait, il y a des circonstances dans lesquelles tu parles de ces choses-là. Parce que tu dis, voilà, t'essayes une fringue, tu vois, une meuf qui dit, t'essayes une fringue, tu dis, ah bah non, ça me boudine. Bon, bah, en fait, là, tu l'as pas dit ouvertement, mais tu viens de parler du fait que, a priori, tu te trouvais grosse. Enfin, tu vois. Donc, ça fonctionne comme ça, quoi.
Il y a tellement de mecs que j'ai jamais entendu dire j'ai essayé un jean mais ça me faisait un gros cul, tu sais, les mecs qui... Peut-être que c'est parce que je suis une meuf et que du coup il y a ce rapport là aussi qui est différent, mais je sais pas toi si Fab t'as beaucoup de potes mecs qui te disent ah j'ai essayé un t-shirt mais bon il me boudine, tu vois.
J'ai pas de potes mecs. Déjà... Question suivante.
C'est vrai que t'es misandre, je vous dis tout le temps.
Ah non mais en vrai il y en a, hein, il y en a.
Bah, j'espère bien, c'est quand même pas une conversation ultra
bah non, c'est pour
dure
ça.
À avoir. Quoi.
En fait, ça nécessite de se rendre vulnérable. Et rien que ça, je pense que c'est un truc qui est super compliqué pour vraiment, vraiment beaucoup de mecs. Ça, ouais. Ça nécessite de venir dire, tu vois, j'ai une faiblesse là et j'ai un truc qui déconne chez moi et c'est compliqué. Et rien que ça, je pense que c'est vraiment déjà...
Ouais, c'est vrai.
C'est pas un truc facile, c'est pas un truc qu'on apprend, encore une fois, à faire au petit garçon. C'est-à-dire, explique-moi pourquoi tu pleures. Plutôt, le garçon va lui dire...
Ouais, arrête de pleurer.
Voilà. Sois un homme. Tu l'as ou pas?
Je l'ai. dans un précédent épisode qui commence à dater un peu, il y avait William Rejo qui nous avait parlé d'une certaine forme de virilisme qu'il trouvait assez violente dans la communauté gay, notamment dans le dating, qu'il y avait des mecs qui recherchaient donc le masque for masque, les mecs qui veulent que des ouais. hommes ultra virils et tout. Et que lui, comme il correspond pas aux critères du masque for masque, ça... lui faisait pas spécialement plaisir d'être rejeté par défaut, en fait. Comment est-ce que c'est quelque chose dans lequel qui résonne en toi ces critères peut-être un peu rigides parfois qu'il peut y avoir dans la séduction?
Franchement, je vois très bien le truc, hein. C'est pas un truc qui me touche personnellement parce que je crois que déjà je suis pas très branché tu vois réseau de rencontres et tout. Je l'ai déjà fait, hein, mais enfin pas tant que ça, et que en vrai, moi je pense que j'ai un peu un radar à gens pas trop cons, en fait, tu vois. C'est-à-dire que en fait, moi les gens qui m'excitent, enfin tu vois, même les, déjà moi en fait le cul pour le cul, j'ai un peu du mal. C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir un rapport sexuel avec un garçon que je ne connais pas, comme ça juste pour dire que je me suis vidé les couilles, quoi. Du coup, j'ai toujours besoin d'avoir un peu un espèce de, enfin de connexion un peu intellectuelle. A priori, si j'ai une connexion intellectuelle, c'est que le mec est pas trop con. Et a priori, si le mec est pas trop con, il balance pas des trucs en mode j'ai besoin d'un mec super viril dans mon lit pour me prouver que, enfin tu vois. La question ne me touche pas comme ça, mais j'entends qu'elle existe et je trouve ça terrible, mais en même temps si ces gens-là existent c'est que enfin c'est clairement pas des gens très intéressants, quoi, tu vois. Moi c'est comme des copines qui me disent je lui envoie un texto, imagine il me répond que tu vois un truc genre hardcore. Je dis, non, mais attends, si le mec te répond un truc hardcore, en fait c'est juste que en fait il a aucun intérêt, tu vois. Donc a priori, si un mec recherche absolument le mec viril parce que à côté sur sa photo Instagram ça fera plus chouette qu'un mec qui fait un peu moins stylé mais qui est vachement plus cool, bah c'est que c'est un con, quoi.
Donc tu perds rien.
Ah non, tu perds rien, non.
Très bonne philosophie. Je pense à noter pour tout le monde. Au pire, c'est qu'un con est un
rien
perdu.
Mais voilà. D'ailleurs, je suis même jamais sorti avec des mecs comme ça, tu sais, qui sont hyper musclés, tu vois.
Bah c'est quand même rare, enfin je veux dire, c'est une discipline de vie qui est compliquée de garder un physique d'Instagrammeur, donc ils sont pas si nombreux, quoi.
Enfin les gens doivent se faire chier, quoi. Enfin tu vois, c'est pour avoir un mec qui va tous les jours à la salle de sport pendant 3 heures, qui le soir me dit qu'il doit manger un plat de pâtes pour avoir ses trucs, qu'il boit pas un verre de vin parce que machin, et qu'après on peut pas aller boire des coups parce que c'est bon, en fait. Non
t'as l'air fatigué rien que d'en parler.
Pas du tout. Enfin moi je préfère mille fois un mec qui me dit je vais fumer une clope sur le balcon, on boit un verre de vin et on se commande une pizza, et puis demain peut-être j'irai au sport, mais peut-être j'irai qu'une demi-heure, tu vois. C'est pas grave, en fait.
Détente.
Détente. Détente. Ouais.
T'as évoqué un peu ta vie sexuelle, donc je vais rebondir sur l'occasion pour te poser la fameuse question. Tristan, comment va ta bite?
Ma bite va bien. Il fait un peu froid en ce moment, mais mais sinon, franchement, elle va pas mal.
Ouais. Tu dis ça parce que tu mets pas de sous-vêtements ou comment ça
si,
se
passe? Si, si, j'ai un sous-vêtement aujourd'hui en plus. Non, en général, je mets des sous-vêtements.
Aujourd'hui.
Non, non, franchement, elle va bien. Ma bite va bien. Je suis assez. On s'entend assez bien.
Ouais.
Ouais.
Franchement. Vous êtes toujours bien entendu?
On s'est plutôt toujours bien entendu, ouais. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec ma bite. Elle a toujours été fidèle au poste quand j'en avais besoin. Donc, non, non, franchement, ça va.
Ah, et j'ai une autre question. Je te l'ai pas envoyé en avance car j'avais oublié. C'est une question qu'on a décidé de mettre en place après l'épisode avec Patrick Beau qui nous a longuement parlé de comment mesurer sa bite et quel est le moyen le plus scientifiquement équivoque de mesurer sa bite. Du coup, est-ce que tu as déjà mesuré ta bite? Et si oui, par quel moyen, avec quel outil?
La dernière fois que j'ai mesuré ma bite, parce que oui, je l'ai fait, c'était en première. Donc, c'est il y a bien 15 ans, je crois. Et c'était avec une règle. Et c'était avec mon premier amour.
Ah, vous l'avez fait à deux?
Ouais. À deux.
Ah, trop chaud. Est-ce que c'était pour voir qui avait la plus grande?
Pas tellement. Non, parce qu'on s'est donné les chiffres sans qu'il y ait d'espèce de compétition. Non, non, c'était juste.
Vous vous êtes donné les chiffres, c'est-à-dire que vous n'avez pas vérifié en.
Si, on était ensemble. Enfin, on s'est donné les chiffres, on a vu le truc. Okay. En face à fin, voilà, bon, oui. Je me souviens plus comment ça s'est passé exactement. Hein,
j'imagine, tu sais, l'écrire sur un petit papier et le glisser à travers la table.
Non, c'est pas, j'en ai le souvenir que c'était plus un espèce de truc de curiosité. Enfin, tu vois, bon, ça s'est fait et puis après, je l'ai jamais refait, en fait.
La vraie question que Mimi pose pas, c'est comment, à quel moment t'as démarré et à partir de où? Tu vois,
c'est ça. Bah, alors moi, je pense que tu démarres à partir de la base, mais genre, devant, pas derrière. Enfin, tu vois, tu passes pas genre, au niveau des couilles et tout, enfin, tu vois, pour moi, bah, tu pars.
Il y a des garçons qui.
Qui passent de derrière.
Ouais,
bah ouais, bah moi je suis sur du 25 alors, tu vois. Non, mais attends. Ouais, d'accord. Ok, donc tu pars de l'anus. C'est ça. Ouais, super. Okay. Bah moi je suis sur un 35-40, ouais.
Tu pars du haut de ta tête.
Non, mais attends.
De. Ça va, hein.
Le mieux c'est déjà de savoir s'en servir. Hein.
C'est vrai. C'est très vrai.
Ah ouais.
Merci pour ces confidences sur comment bien mesurer sa bite. Ces opinions
sur la
taille
de ma bite, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai pas de tel chiffre.
Je ne te le demande pas, mais tu peux le donner
nombre,
si
pardon.
Tu veux.
Mais merci à vous, en tout cas.
Quel beau moment. C'est ma nouvelle question préférée, je pense,
je me doute.
De tout ce podcast. Et donc, j'ai une dernière question pour toi, qui est la question que je pose à tous les invités et qui n'a pas forcément de réponse facile. C'est, est-ce que tu as un exemple de mec qui, pour toi, représente une masculinité positive?
Alors, j'y ai réfléchi, justement, et je suis sortie avec Barack Obama.
Tu es sortie? Enfin, tu...
Non, je suis pas sortie, mais je veux dire... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Barack Obama, parce que je le trouve assez bienveillant. Tu vois, je trouve qu'il a une énergie assez bienveillante. C'est un mec que je trouve assez classe. Donc, je trouve qu'il répond à une espèce de, tu vois, d'image un peu de l'homme. Voilà. Mais que je trouve assez élégant, assez chic, qui, il me semble, est assez quand même branché féminisme et en tout cas ouverture, tu vois, sur même les questions LGBT, etc. Et c'est pas un mec, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Donald Trump, tu vois, qui impose justement son pouvoir, tu vois, en ayant des propos hardcore. Ou je trouve que c'est quelqu'un qui impose une autorité de manière assez chic et élégante. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui.
Bon, c'est un très bon exemple. Écoute, voilà. Je suis complètement d'accord avec ton analyse de Barack Obama.
Et ben alors, c'est banco.
Et comme ça, tu as pu dire au micro, je suis sortie avec Barack Obama.
Ouais, j'avoue. Franchement, j'aurais bien aimé, hein. Il est pas mal, hein.
Ça sera le titre de ce podcast, d'ailleurs.
Tristan Lopin révèle sa relation avec Barack Obama.
Je suis sorti avec Barack Obama. Putain, je vais avoir la CIA sur le cul.
C'est qui ce Tristan Lopin?
Est-ce que c'est une bonne expérience ou pas d'avoir la CIA sur le cul?
Je sais pas, faudrait avoir Barack sur le cul.
Je pense qu'il faut aimer un peu le BDSM et tout, parce que c'est... Ouais, je suis pas sûr que ce soit très tendre.
À mon avis, ça doit être hardcore.
Ah ouais. Et on va se quitter là-dessus.
On se quitte là-dessus.
Voilà.
Merci à tous d'avoir écouté.
Oui, merci beaucoup Tristan d'être
avec
venu.
Plaisir.
C'était
merci
top.
Tristan.
Je suis merci. Très contente de t'avoir enfin reçu. Merci à Fab.
Merci Mimi.
Et donc pour rappel, je vais prendre mes petites notes pour pas me tromper de date. Vous pouvez retrouver Tristan Lopin à Paris, à l'Apollo Théâtre,
ouais,
a priori.
Jusqu'au 29 mars, les jeudis, vendredis.
Et après j'ai noté toutes les villes où tu passes. Donc il y a Caluire à côté de Lyon, Genève, Marseille, Lille, Montpellier, Gétigné.
Ouais, Gétigné, c'est à côté de Nantes.
Ok. Versailles, Bordeaux, Rouen, Passé, Bandol.
C'est à côté de Rennes, ouais.
Ok.
Bandol, ouais.
Saint-Égrève et Toulouse. Jusqu'au 15 juin.
Et puis après, il y en a d'autres pour l'automne.
Tout à fait. Et voilà. Info très spécifique qui va être périmée très vite. Le jour de la sortie de ce podcast, donc le 19 février, si je dis pas de conneries.
Ouais, c'est ça.
Tu es au grand One Match Show organisé par Mademoiselle à Bobino.
Yes.
Donc si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie et que tu es à Paris, viens au grand One Match Show pour rencontrer Tristan Lopin et plein d'autres artistes sur la
très
scène
chouette.
Du
très
théâtre.
Bons artistes, ouais.
J'ai tellement hâte, ça va être trop bien.
Yes.
Merci beaucoup Tristan.
Merci à vous.
Salut.
Bye bye.